Bon, on est à Baracay au Venezuela, à 1h30 de. On est le 20 août, à 1h30 de Caracas, où tu as participé il y a une quinzaine de jours à un forum national et international de médias communautaires avec un de tes camarades de Zalea TV, une télévision indépendante, alternative française de Paris. Alors, on va commencer par le commencement. D'abord, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es globalement?
Alors, je m'appelle Glenn Félix. Globalement, j'ai environ 25 ans. Je participe à l'aventure de Zaléa TV depuis à peu près 1 an et demi. En dehors de ça, je travaille aussi dans l'audiovisuel pour gagner ma vie en tant que monteur. Voilà, en gros, ma vie.
Bon, mais comment tu pourrais expliquer aux gens qui écoutent le projet Zaléa TV, comment c'est né, tout simplement quand, comment?
Alors Zaléa TV, ça s'est créé à la suite de la coordination permanente des médias libres qui s'était constituée en 99 en France. Donc c'était plusieurs médias, enfin l'initiative de plusieurs médias, une proposition de travail en commun, de plus ou moins d'une fédération pour avancer ensemble, aussi bien au niveau de la presse écrite, audiovisuelle, radio, pour essayer de se mettre ensemble pour combattre. Donc cette coordination, sa principale action, ça a été d'arriver à faire modifier la loi sur l'audiovisuel, parce qu'il y a eu, elle a été réécrite en 2000, enfin réaménagée en 2000, et la coordination a fait en sorte qu'il y ait un chapitre consacré aux médias associatifs, et surtout aux télévisions associatives, puisque jusqu'à août 2000, donc date de la loi, une structure associative n'avait pas l'autorisation, ne pouvait pas obtenir l'autorisation de faire une diffusion télé. Donc le seul télé qui existait à l'époque, c'était soit ce qu'on appelle des télébrouettes ou des télécafés, c'est-à-dire qu'on amène la télé et le magnétoscope dans un lieu public, comme un café, comme une salle de fête ou comme n'importe quel lieu collectif, et qu'on diffuse comme ça, ou alors des structures pirates qui diffusaient sans autorisation sur les ondes hertziennes. Donc grâce à cette loi, il a été possible aux structures associatives de demander l'autorisation de diffuser par des canaux hertziens classiques. Puisqu'en France, je sais que c'est pas comme ça en Belgique, mais en France, c'est encore le hertzien qui est le système prédominant de diffusion télévisuelle. Donc cette loi autorise donc les structures associatives, mais ne leur donne pas les moyens financiers ou techniques d'exister, c'est-à-dire que c'est juste une autorisation d'exister. Donc c'est pour ça qu'on continue le combat pour faire encore avancer les choses au niveau du gouvernement, etc. Mais c'est vrai que ça a été un grand pas en avant. Puisque depuis cette loi, il y a environ une dizaine ou une quinzaine de structures en France qui ont pu bénéficier d'autorisations temporaires de diffusion hertzienne. Et quelques-unes comme Zaléa qui ont aussi eu une convention câble et satellite. Donc qui permettent sous couvert de trouver un partenaire privé, puisqu'il n'existe que des diffuseurs privés par le câble ou le satellite, d'être diffusés par ces moyens-là. Donc Zaléa est donc née à la suite de la coordination permanente, quand la coordination a un peu. Commencé un peu à battre de l'aile, mais Zaléa, on est émergé et on a diffusé 6 mois sur la région parisienne, sur Paris même, parce qu'on avait une puissance de diffusion très faible. Donc du 20 mars au 20 septembre 2001, et 7 semaines sur Canal Satellite, donc avec une diffusion beaucoup plus large, parce que ça touche une partie de la France, mais même de l'Europe, voire d'Afrique du Nord. On a diffusé pendant 7 semaines, 24 heures sur 24, sur ce support-là. Voilà un peu l'histoire de Zaléa. Et donc depuis le 20 septembre, on n'avait plus d'autorisation de diffusion. Donc en France, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui donne les autorisations. Hein, c'est pas l'État, c'est quelque chose un système indépendant. Mais
Indépendant, c'est tout de même nommé par le politique.
Oui, les membres sont nommés par. Trois sont nommés par l'Élysée, donc la présidence de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale et trois par le président du Sénat. Mais c'est, disons que le système fait que c'est pas l'État qui décide des autorisations, que normalement l'État ne peut pas faire pression sur le CSA pour des décisions, quoi. Mais donc le CSA nous a refusé des autorisations parce qu'en France il y avait des élections, d'abord présidentielles puis législatives, ça, je pense que tout le monde le sait un peu ces derniers mois, et donc pendant toute cette période-là, les télévisions associatives étaient interdites. Interdites de diffusion.
Pour quelles raisons exactement les
Alors,
élections? Pourquoi?
les raisons évoquées étaient. C'était un principe de précaution, c'est le terme qui a été utilisé, parce que le CSA disait que ça leur ferait trop de travail en fait, de devoir surveiller toutes ces structures, en cas de débordement, parce qu'il y a des lois assez strictes sur la, pendant les périodes d'élection, sur le temps de parole de tous les partis, de tous les candidats. Et ils pensaient que les télévisions associatives seraient amenées à ne pas respecter ces règlements. Donc, par principe de précaution, ils ont préféré ne pas donner d'autorisation.
Et dans votre commun, quelle est la philosophie? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement avec les télévisions ou d'autres médias, mais les télévisions associatives? Qu'est-ce que vous... Votre principe de travail, qu'est-ce que vous diffusez? Qu'est-ce que vous voulez diffuser ou produire?
Zalea, c'est une télévision associative assez particulière par rapport à la plupart de celles que je connais, parce que au-delà d'être une structure de production, c'est aussi une structure de diffusion. C'est-à-dire qu'on diffuse, on est ce qu'on appelle la vitrine du tiers secteur audiovisuel. Donc tiers secteur audiovisuel, c'est aussi quelque chose à définir. C'est le secteur audiovisuel qui n'est ni public ni commercial. Donc c'est tout le secteur non marchand de l'audiovisuel. Et Zalea se veut la vitrine de ce secteur-là. Donc on diffuse la production de toutes les télés associatives qui veulent être diffusées, mais aussi des collectifs, des individus, des sociétés de production associatives ou non commerciales. On est un diffuseur. Le principe de Zalea, c'est la liberté d'expression. Zalea, d'ailleurs, c'est un sigle, ça veut dire zone d'action pour la liberté d'expression audiovisuelle. Donc c'est bien pouvoir donner la parole, ou en tout cas faire prendre la parole à toutes les personnes qui n'ont pas habituellement dans le milieu audiovisuel les moyens de s'exprimer. Donc ça touche aussi bien les mouvements sociaux, on a en lien avec beaucoup d'actions de ce type-là, mais aussi des films qui ont été censurés à la télévision depuis des dizaines d'années ou tout récemment, des programmes qui ne sont pas passés pour diverses raisons, ou qui parce qu'en général ils ne sont pas capables de se plier aux exigences du télévisuellement correct. Donc toutes ces choses-là peuvent passer à Zalea, mais aussi un petit film fait avec 3 francs 6 sous par des gens d'un quartier qui de toute façon n'ont pas l'intention de le faire passer à la télé, mais c'est tout à fait, enfin ils peuvent tout à fait venir à Zalea pour le diffuser. Donc Zalea se veut être un reflet de différentes
initiatives.
C'est un reflet, mais c'est surtout un espace de liberté d'expression audiovisuelle où tout le monde peut venir. On fait ce qu'on a. En fait, il y a à peu près trois parties dans la programmation à Zalea. Il y a les productions de Zalea, des gens de Zalea. Il y a la production du tiers secteur audiovisuel. Et il y a ce qu'on appelle l'accès public, qui est donc où n'importe qui peut amener ses films. Alors, c'est n'importe qui peut amener ses films. On passe tout sans critères de qualité. Par contre, effectivement, on respecte la loi sur... On refuse tout ce qui est appel au racisme, à la xénophobie, au sexisme, à l'homophobie et à tout ce type de discours excluant. Merci. Et surtout, on ne diffuse pas tel quel. C'est-à-dire qu'un des principes de Zalea, c'est de toujours contextualiser ce qu'on passe. On ne va pas diffuser les programmes tels qu'ils arrivent parce que quelqu'un nous l'a amené, hop, on le passe comme ça. On va essayer de faire une interview des gens qui l'ont fait, des gens qui ont participé, du sens que ça peut avoir dans le cadre dans lequel il a été réalisé. Et on va aussi essayer de l'introduire dans une thématique, c'est-à-dire qu'on ne va pas diffuser un seul programme sur tel sujet et puis le lendemain sur le même sujet un autre programme. On va essayer de les réunir pour faire différentes, une sorte de pluralisme, pas nécessairement pluralisme d'opinion, mais au moins pluralisme de programmes, de types de formats, que ce soit de la fiction, le documentaire, ça, c'est pas un problème de les mélanger quand ils touchent aux mêmes thématiques. Ça peut être aussi bien un micro-trottoir qu'un travail de fond sur plusieurs années sur un sujet. On essaie de rassembler ces thématiques-là ensemble pour créer des soirées, en général, puisqu'on diffuse le soir, plutôt. Mais ça peut être des journées aussi, enfin bon, on parle de soirées assez régulièrement.
Mais tu me dis, bon, les gens peuvent se ramener avec un film, je sais pas, vous avez tout de même des critères idéologiques, outre ceux qu'impose la loi par rapport à l'homophobie, le racisme et tout ça. Il y a tout de même, par exemple, je sais pas, prenons un jeune fan de Jacques Chirac, qui débarque avec un film, un superbe film, faisant l'apologie du libéralisme, de l'exclusion sociale ou je ne sais quoi. Est-ce que vous allez le diffuser ou...
Je pense que oui, on va le diffuser, mais on le diffusera pas brut comme ça, sans rien dire. On en parlera avant, on en parlera après, on travaillera pour pouvoir dire notre opinion là-dessus, essayer de démonter, de critiquer avec soit directement nos propos, soit d'autres films qui iront dans l'autre sens, mais on l'exclura pas de telle manière. Je crois que jusqu'à présent, on nous a encore jamais proposé de programme vraiment excluant du type Front National ou raciste, etc. Les seuls programmes qu'on a refusés, c'était des programmes de secte. Mais autrement, on a absolument tout diffusé. Un des principes aussi dans le choix de ce qu'on diffuse à Zalea, c'est qu'à partir du moment où une personne dans le groupe est prêt à porter un film, donc à travailler dessus, donc à le critiquer, à faire, à amener une critique intelligente dessus. Critique que ce soit dans un sens négatif ou positif, mais à partir du moment où on est prêt à contextualiser, c'est pour ça qu'on le on pourra le diffuser, mais certainement pas brut. On invitera la personne qui l'a fait, on montrera bien quelle est son opinion, donc que c'est pas un film neutre et qui apporte la vérité sur Jacques Chirac ou sur le RPR ou quoi que ce soit, mais que c'est bien un discours orienté, et nous-mêmes on aura sans doute un discours orienté qui sera certainement contraire, mais on confrontera ces discours. Donc on peut tout à fait se permettre de diffuser ce type de programme. Ça ne nous poserait pas de problème. Pour l'instant, ça n'est pas encore arrivé non plus.
Et quel est votre rapport au secteur marchand? C'est-à-dire, si vous produisez, bon, tu es ici au Venezuela, bon, ton camarade qui est retourné là, il a filmé, toi aussi tu filmes, vous allez produire quelque chose sur le Venezuela, sur le processus ici en cours, bon, il y a d'autres projets ou quoi. Quel est votre rapport, justement? Est-ce que vous essayez aussi éventuellement de les diffuser plus largement en essayant de les vendre? Ou je ne sais pas, quel est votre rapport justement à cette question marchande de la vente de documentaires et tout ça?
Alors c'est très simple, Azalea, les programmes audiovisuels, les documentaires, les films, enfin quel que soit le format, ne sont pas une marchandise. Donc ils sont inachetables et invendables. Ça c'est pour les productions d'Azalea, on ne vendra pas et nos images ou nos films à une structure commerciale ou publique. On les donnera par contre volontiers au tout ce qui est intersecteur audiovisuel pour une diffusion large, pour une diffusion dans, que ce soit dans des lieux collectifs, etc. Il n'y a pas de problème pour une libre circulation, sans rétribution monétaire, etc. Les seules, les seules conditions, c'est l'intégralité du programme et justement la gratuité. Disons qu'on ne va pas accepter que quelqu'un se fasse de l'argent avec nos programmes. Mais il est hors de question qu'on vende nos programmes. Par contre, les gens qui amènent leur programme à Azalea peuvent tout à fait les vendre ailleurs. C'est pas incompatible que nous, on le diffuse d'un côté et eux que le vendent ailleurs d'un autre côté. Mais pour une production Azalea, il est hors de question que ça passe par un système commercial.
Ici, donc, on est dans un projet de télévision communautaire au Venezuela. Et ici, les gens viennent animer même les émissions. Donc, comment ça marche, en fait, Azalea, une télévision indépendante comme ça?
Alors, déjà, sur la structure en elle-même, il y a à peu près une quinzaine de personnes qui sont... On va, entre guillemets, le noyau dur de la structure. Tout le monde est bénévole, il n'y a aucun salarié. Pour l'instant, c'est la ligne qu'on suit. Il n'y a pas de changement prévu. Ensuite, autour de cette équipe, il y a peut-être encore une 30-40 personnes qui viennent de manière un peu plus sporadique de temps en temps, soit qui apportent des programmes, soit qui donnent un coup de main pour ci, pour ça. Surtout dans les moments de diffusion, en général, c'est là où on a beaucoup de gens qui passent nous voir et qui nous donnent un coup de main, qui participent d'une manière ou d'une autre. Et dans les soirées elles-mêmes, en général, elles sont animées par quelqu'un d'Azalea, mais en invitant toujours au maximum des gens à participer et à créer. Et avec les structures qu'on connaît bien, donc les structures actives du tiers secteur visuel, audiovisuel en France ou à l'étranger, il est possible aussi qu'eux-mêmes gèrent une programmation, donc fassent une soirée, un choix de thématique, un choix de programme, et qu'eux-mêmes présentent ces programmes.
Et vous avez déjà eu des échos par rapport à vos diffusions et tout ça, de gens, de par rapport à votre conception de la télévision et tout ça?
Oui, bah, surtout au moment de Canal Satellite, donc c'était il y a un peu plus d'un an, c'était entre mars et mai 2001, on diffusait donc sur la France pour tous les abonnés Canal Satellite, mais aussi sur l'Europe et un petit peu sur l'Afrique du Nord, donc et un certain nombre de personnes, enfin même beaucoup de personnes je pense qui nous regardaient, et effectivement on avait un retour téléphonique principalement, et aussi mail, mais beaucoup téléphonique puisqu'on faisait aussi de l'accès direct téléphone où les gens pouvaient appeler directement au studio, nous parler à nous directement ou passer à l'antenne s'ils le voulaient. Il y a effectivement beaucoup de gens qui sont reconnus ou en tout cas qui nous ont dit que c'est un peu ce qu'ils attendaient de la télévision, que ça faisait longtemps qu'ils étaient très critiques à l'égard de celle-ci et que au travers de Azalea, ils ont pu trouver quelque chose de nouveau, de créatif, de changeant, des films qu'ils n'avaient jamais vus ailleurs, mais aussi une manière de les présenter, une manière de prendre le temps de faire les choses qui leur a beaucoup plu, qui leur a parlé. On a eu un public très fidèle, je crois, à ce moment-là. Donc il y a une véritable attente des gens, je pense, de ce type de programme, mais on le trouve aussi dans les structures qui sont plus locales, qu'effectivement, il y a toujours un public qui peut répondre à... Il y a une attente pour une télévision différente, une télévision qui parle aux gens, ou qui est faite par les gens, où les gens peuvent s'exprimer. Je crois que c'est effectivement très important aujourd'hui. Donc il n'y a pas de problème de public, on a vraiment des gens qui apprécient ce genre de travail.
Donc vous recommencez à diffuser le 1er septembre. Quelles sont les perspectives donc de votre lutte pour la liberté d'expression? Est-ce que tu peux un peu m'expliquer un peu les prochaines étapes du combat, on va dire?
Alors les prochaines étapes, elles sont multiples. Donc déjà, on a réussi à obtenir cette autorisation de diffusion de 6 mois à partir du 1er septembre, donc jusqu'au 28 février, sur Paris. On a réussi à avoir l'autorisation de mettre notre émetteur sur la Tour Eiffel, ce qu'on n'avait jamais eu, ce qui même paraissait tout à fait impossible il y a encore quelques mois. Donc pour une diffusion très large sur toute la région parisienne. On va diffuser 3 heures par jour uniquement parce qu'à Paris, il existe un certain nombre de structures, aussi bien associatives que semi-commerciales, que commerciales ou que municipales. Et on est obligé de partager le seul canal disponible sur la région parisienne, en tout cas le seul de qualité, qui est le canal 35. Donc on peut diffuser que 3 heures par jour et encore pas tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine jusqu'au 23 septembre et ensuite 3 ou 4 jours par semaine, on partage avec une autre télévision associative parisienne. Donc, au cours de ces 6 mois, on va encore continuer à proposer beaucoup de soirées thématiques, de programmation thématique autour de plein de sujets divers, à la fois de la politique locale, à la fois de la politique étrangère, à la fois comment ça marche dans les autres pays, notamment tous les documents qu'on est en train de réaliser ici au Venezuela, mais aussi tous les documents qu'on va ramener des télévisions communautaires vénézuéliennes, parce qu'on pense que le travail qui est fait ici est extrêmement important. Ils sont, je pense, vraiment en avance sur nous. Donc c'est très important de pouvoir faire circuler ça de manière le plus large possible. On va diffuser des programmes encore qui ont été interdits sur des thématiques diverses comme la colonisation, le rapport France-Afrique, etc. Donc ça, c'est une des perspectives qu'on a réussi à obtenir, mais c'est qu'une autorisation de 6 mois, que sur une horaire assez réduite. Il y a un autre combat qu'on est en train de mener. En ce moment, en France, se met en place la télévision numérique terrestre avec beaucoup de difficultés. Le lancement a été reporté de nombreuses fois et on n'est même pas sûr qu'elle va se faire. Mais la télévision numérique terrestre, ça pourrait être, avec le système hertzien classique, de permettre beaucoup plus de chaînes, et notamment des chaînes locales et des chaînes associatives. Donc Zaléa TV est candidat à cette TNT, donc c'est comme ça qu'on appelle. On espère bien l'obtenir, et ça aussi c'est un combat. Et ce genre de combat, en général, on les a menés grâce à des actions pirates. C'est ce qu'on a fait dans les quelques derniers mois, puisqu'on était interdit de diffusion, notamment pour les élections. On a décidé qu'on couvrirait quand même les élections, donc on a fait un certain nombre d'actions pirates. Avec tout le réseau TSA, on n'était pas les seuls à agir. D'autres structures ont fait des actions, chacune de leur côté, mais de manière concertée, sur des dates précises, pour arriver à faire plier le Conseil supérieur de l'audiovisuel et redonner ses autorisations. Donc ça, c'est une des perspectives. D'autres perspectives qu'on a, c'est arriver à obtenir de manière générale que le milieu associatif, le milieu non commercial, bénéficie des mêmes aides et des mêmes possibilités que les structures commerciales, notamment pour la production, l'aide à la production du Centre national de la cinématographie en France, qui actuellement ne donne des financements ou des aides à l'écriture, au développement ou à la réalisation que à des productions qui ont un préachat d'une télévision. Et ça, c'est aussi un combat à mener, parce qu'on estime qu'il faut que les structures qui ne soient pas, dont le but ne soit pas de faire de l'argent, aient aussi le droit de création, puisqu'il y a une grande liberté à pouvoir créer sans avoir de compte rendu financier à rendre à la fin, quoi. Autrement, on limite énormément la production. Ce qui passe à la télé, c'est de manière très formatée, quelle que soit la télé, aussi bien que ce soit TF1, France 2 ou même Arte. Ça reste sur des formats précis, même si on peut parfois arriver à y voir des choses intéressantes. Je pense que la liberté est conjointe au fait que ça ne soit pas uniquement commercial, les buts. Donc ça, c'est un de nos combats. D'autres combats aussi pour la pérennisation de toutes ces structures associatives, c'est que le gouvernement mette en place des systèmes de financement, que ce soit un type de subvention ou une partie de la redevance qui serait reversée au milieu associatif, ou ce qu'on appelle le fonds de soutien, qui existe déjà pour les radios associatives en France, c'est-à-dire c'est une ponction, un pourcentage sur le chiffre d'affaires publicitaire des structures commerciales qui soit reversé aux structures associatives. Ça existe pour la radio, ça n'existe pas pour la télé, c'est pas normal. Et ça, c'est un des combats pour qu'il y ait un financement, parce que faire de la télé, ça coûte extrêmement cher. C'est des moyens techniques, c'est aussi des moyens de personnel. Bon, à Zaléa, tout le monde est bénévole, et pour l'instant, on va le rester, mais on a quand même besoin d'argent pour acheter du matériel, pour acheter des cassettes, pour pouvoir faire une production réelle. Nous, comme tous les autres, on a besoin d'argent, et c'est pas toujours facile à concilier. Un autre combat aussi dans la même direction, ça serait ce qu'on appelle le must carry, c'est-à-dire obliger les opérateurs privés à transporter gratuitement le signal des structures associatives. C'est déjà le cas pour les télévisions publiques, elles n'ont pas besoin de payer pour être diffusées sur le câble ou le satellite, et c'est pas le cas pour nous. Actuellement, ça coûte 5 millions de francs français. Alors, je ne sais pas très bien ce que ça donne en euros, mais ça fait quand même une grosse somme pour pouvoir diffuser sur le satellite pendant un an. Aucune structure associative ne peut se permettre de payer une telle somme. Donc, il faut obliger les opérateurs privés à transporter gratuitement les signaux des structures associatives. Donc ça fait partie des différents combats qu'on a menés pour la liberté d'expression, pour Zaléa, pour toutes les autres structures, celles à venir, celles qui existent déjà. Et je pense que c'est effectivement une part aussi importante de notre travail.
Et je crois que tu as participé en décembre dernier au Nova à Bruxelles, à la rencontre de télévision communautaire, indépendante, alternative, associative. Et donc, il y avait été représenté différents projets, d'ici au Venezuela, bien sûr, mais d'un peu partout, de Colombie, de France, de Belgique,
de Corée, d'Éthiopie,
ouais. Un peu de tout. Comment est-ce que tu vois au niveau international, parce que tu connais, par les expériences que tu connais, le développement des télévisions alternatives, on va les appeler comme ça, que ça soit en réel, on va dire, par satellite ou par le câble ou tout ce qu'on veut, en hertzien, ou que ça soit aussi par internet, parce qu'il y a vraiment des sites internet qui produisent de la vidéo de grande qualité. Comment est-ce que tu vois se développer ce mouvement?
Je sais pas encore très bien comment ça va se passer. Effectivement, Nova, c'était une des premières rencontres internationales, mais c'était pas non plus la première. En France, à Tours, à Toulouse, on avait déjà fait des rencontres donc, du tiers secteur audiovisuel au sens large, où des gens de l'étranger étaient venus. Il y a déjà des connexions qui sont faites, comme ici à Maracay avec Télétambores, à Caracas avec Katia TV. Il y a déjà un échange qui se fait entre l'Europe et le Venezuela, avec le Brésil, etc. C'est pas encore terminé, il faut encore avancer. Je pense qu'on a effectivement beaucoup de choses à faire, parce que c'est très important que tout le monde puisse voir ce que fait à l'autre bout du monde, comme ce qui se fait en bas de chez soi. C'est important qu'on puisse partager des expériences. Et ça passe, enfin, un des projets qui est à mon avis très intéressant et qui est en cours actuellement, qui a été proposé justement par les structures vénézuéliennes sur le journal international des quartiers, qui consisterait à ce que sur un thème prédéfini, plusieurs structures de plein de pays du monde fabriquent un petit programme court et qu'on assemble ces différents programmes pour montrer la vision, la manière de travailler, la manière de combattre, parce que c'est souvent sur des actions sociales, sur des processus révolutionnaires ou en tout cas de progression des qualités de vie, etc. Que tout le monde puisse voir et puisse échanger ces programmes. Je pense que principalement c'est échanger les programmes, échanger les manières de faire pour voir ce qui peut s'adapter ou non, parce que selon les pays c'est absolument pas pareil. On travaille pas pareil à Maracay qu'on travaille à Paris, et on travaille pas non plus pareil à Paris qu'on travaille à Marseille ou à Toulouse, parce qu'on est dans des systèmes différents, que tout le monde n'a pas les mêmes envies. Mais je pense que par contre c'est très important que les programmes de tous les endroits soient vus le plus largement possible. Donc ça c'est quelque chose à pousser, on y participe justement donc avec le tiers secteur audiovisuel, qui est ce réseau qui se constitue petit à petit et qui est de plus en plus large, d'échanges d'informations aussi, d'échanges de programmes beaucoup. Et effectivement, je crois que la perspective est nécessairement internationale aujourd'hui.